Frères et sœurs, c'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, que nous allons lire ce récit biblique qui met en scène Marthe et Marie. Évangile selon Luc, au chapitre 10, je vais vous lire les versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était occupée à divers soins domestiques. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Seigneur, ta parole est la vérité de grâce. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Pour entrer dans la dynamique de ce texte qui nous invite au service notamment, je vous invite à ouvrir votre recueil de chants, louanges et prières au cantique 258, dans le petit recueil bleu, louanges et prières. Au cantique 258, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous. Éternel, notre Dieu, nous te prions de renouveler notre vie, de la rendre claire et belle sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes, nos fondamentalismes, nos littéralismes, et que ta joie nous attende sur ces chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de chacun de tes enfants. Chers frères et sœurs, la semaine qui vient de s'écouler nous a offert un exemple de ce qu'est la vie authentique. Et cela, nous le devons au Paris Saint-Germain, qui a mis en évidence trois aspects de la vie dont nous parle aussi l'épisode de Marthe et Marie. Petit rappel des faits, dimanche dernier, le PSG fait son travail et rentre au vestiaire sur un score de 2-0 face à l'OM, remportant ainsi 3 points de la victoire. Mercredi, le PSG bat à nouveau l'OM sur un score identique, 2-0. Le score est le même, mais la manière est différente. Le PSG ne s'est pas contenté d'assurer la victoire. À l'image d'un Zlatan Ibrahimovic qui s'élance balle au pied vers la surface de réparation, qui prend la défense par défaut, et qui prend presque la peine de relever le dernier défenseur qui s'est jeté dans ses pieds pour l'aider à voir le but qu'il s'apprête à marquer. Ibrahimovic met en évidence son intelligence du jeu et l'intelligence de l'équipe mercredi. On peut dire qu'il a du flair, d'autres diraient qu'il a du nez, et l'équipe tout entière montre qu'il a de l'envie. Enfin, hier, laissant la victoire à la mythique équipe de Reims, le PSG montre qu'il n'a pas la victoire égoïste, mais qu'il est animé d'un véritable esprit sportif, capable de relancer et d'éviter la relégation de cette équipe mythique de Reims. Voilà donc trois moments de la semaine qui, au regard de l'actualité, sont aussi insignifiants que l'épisode de Marthe et Marie. Mais vous constaterez que la Bible souvent s'intéresse à des petits détails qui n'avaient pas grande importance au regard de l'actualité internationale, pour en tirer des leçons de vie qui nous seront très profitables, et c'est le cas pour nous ce matin. Pour entendre de quelle manière cet épisode de Marthe et Marie peut nous aider à comprendre de quelle manière notre vie personnelle peut être élevée au rang de véritable œuvre d'art, je ferai appel au travail du théologien protestant Schleiermacher, qui a consacré tout un travail, tout un ouvrage même, à l'esthétique. Et Schleiermacher repère trois moments dans la création d'une œuvre d'art, qui sont trois moments de ce texte biblique. Et le premier, nous le découvrons dans cette différence qu'il y a entre dimanche et mercredi. Nous pourrions dire qu'entre les deux, il y a eu comme une sorte d'étincelle. Est-ce l'entrée de David Beckham dès le début du match qui a mis le feu aux poudres? Ça, c'est peut-être du côté des supportrices que ça a eu un effet. Ou de supporters aussi d'ailleurs. Toujours est-il que l'équipe de mercredi ne se contente pas de servir la soupe. Elle ne se contente pas d'être Marthe. Ce que Schleiermacher dit au sujet de ce moment de la création artistique, c'est qu'il y a là une sorte d'excitation. C'est son terme. Et Marthe, qui est dans l'arrière-maison, ne voit pas, dans un premier temps, Marie qui est au pied de Jésus. Marie qui ne s'agite pas. Elle écoute la parole de Jésus. Et le texte ne dit pas que Marie écoute les paroles de Jésus, mais sa parole. En grec, elle écoute son logos, ce qui, évidemment, peut nous renvoyer au logos du début de l'évangile selon Jean, ce logos qui est aussi la parole que l'on trouve dans Genèse 1, ce logos qui est au début de la création, de l'acte créateur. Eh bien, je repère dans ce moment ce que Schleiermacher appelle le premier moment de la création, l'excitation. D'autant que la posture de Marie rappelle l'attitude de cette femme pécheresse rencontrée un peu plus tôt au chapitre 7 de l'évangile de Luc. Cette femme qui avait versé ses larmes et du parfum sur les pieds de Jésus, puis les lui avait essuyés avec ses cheveux. Dans l'évangile de Jean, la scène de Marthe et Marie se déroule juste avant le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Il est écrit que Marie utilise du parfum de grand prix. Dans tous les cas, cette position des corps peut faire allusion aussi à Ruth, qui est au pied de Boaz, cet homme dont elle deviendra l'épouse. Autant de scènes, autant de postures qui ont une connotation érotique et qui évoquent la possible excitation de Marie par Jésus, étant entendu que l'éros, la stimulation érotique, ne doit pas être réduit à une stimulation sexuelle, mais ce qui provoque le désir, notamment le désir de vivre. Le logos de Jésus pour exciter Marie, pour la stimuler, pour lui donner cette étincelle de vie qui va lui permettre non plus d'être à ses pieds, mais de pouvoir s'élancer dans la vie, et de pouvoir, dans un second temps, agir peut-être. Toute œuvre d'art, dit Schleiermacher, a besoin de cette excitation originelle, de ce logos qui embrase la vie, qui réveille de la mort, qui fait surgir du néant, qui en quelque sorte rend possible ce qui jusque-là était impossible. Que la lumière soit. Et le monde découvre ce qu'est la lumière. Cette parole ne fabrique pas la lumière, elle crée la lumière en ce sens qu'elle nous fait prendre conscience que la lumière est là, même si jusqu'à présent, nous étions incapables de la voir. La création, c'est de révéler ce qui est là, en potentiel. Ce moment de l'excitation, les exégètes le connaissent bien. Et dans la tradition juive, dans le Talmud, il est même dit que l'exégète qui fait cette trouvaille, la trouvaille d'un sens qui jusque-là n'avait pas été mis à jour, mais qui était dans le texte, cet homme a envie de le communiquer, a envie d'en rendre compte. Et c'est la première personne qu'il va rencontrer qui sera le plus au bénéfice de cette excitation primordiale. Parce qu'après, lorsqu'il répétera à nouveau la découverte qu'il a faite, l'enthousiasme qui est le sien, il commencera à estomper la rugosité, à estomper les sommets qu'il a découverts. Il commencera à reproduire et à rendre à l'identique ce qui jusque-là était quelque chose d'inédit, d'inouï, une invention, du ridouche, comme on dit dans la tradition juive. Il y a eu un déclic. Les poings sont serrés, on a des fourmis dans les jambes, on a envie d'en découdre. Schleiermacher dit qu'il y a une sorte de cri primordial, cri de joie ou cri de douleur, c'est à voir. Toujours est-il que nous avons ouvert les yeux. Une intuition est là. Quelque chose est perceptible, plus à voir que ce que nous voyons jusque-là. Et nous nous mettons à vivre. Il y a une quête, nous nous lançons dans quelque chose. C'est une quête provoquée par une excitation de départ. Tu ne me chercherais pas si je ne t'avais pas déjà trouvé, pourrait dire le Christ à Pascal dans une pensée à peine déformée. Ou encore, ce Dieu que vous ne connaissez pas, c'est celui que je vous annonce, dira Paul à cette foule rassemblée à Athènes. Dieu était là et je ne le savais pas, s'exclamera Jacob dans le livre de la Genèse. Ce sont autant de personnes qui ont été aiguillonnées, une impulsion, une stimulation de départ. Et Paul ne sera pas en reste, lui qui aura l'aiguillon en quelque sorte en travers de la gorge. Et on sait quel sera son enthousiasme, on sait quelle sera l'œuvre d'art missionnaire qui sera la sienne, traversant l'Empire de part en part pour faire entendre cette parole qui redresse. La mise en route dans la vie n'est donc pas simplement une sorte de sursaut, une sorte de baroud d'honneur, une sorte de volonté. C'est quelque chose qui s'adresse à nous, c'est quelque chose qui nous rejoint et qui nous met en route. C'est une excitation qui suscite chez nous un désir de vivre. C'est une parole, un signe, un visage, un regard, une attitude, une posture, une présence. C'est une autorisation à être. Un regard bienveillant qui nous dit « Oui, il est juste et bon que tu sois là. » Je ne vous ai pas tous regardé, mais le cœur y était. Le deuxième moment, c'est celui de l'expression. Car évidemment, il ne s'agit pas simplement d'être stimulé. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de cette stimulation. C'est d'en rendre compte. Rendre compte de notre espérance, disait l'apôtre Paul. Il s'agit de transformer cette excitation de départ en quelque chose de communicable pour que ce goût de la vie puisse se transmettre. Et c'est là notre responsabilité chrétienne, c'est de transmettre le goût de la vie. Ce n'est pas de transmettre un arsenal législatif, un arsenal de doctrine, c'est de transmettre le goût de la vie. Comment transmettre une étincelle de vie, cette chose aussi fugace, cette chose aussi personnelle? Comment faire pour partager ces intuitions, ces choses aussi indicibles, aussi incommunicables? Comment donner l'envie d'avoir envie? Eh bien, c'est tout l'art des artistes, bien sûr. Parvenir à communiquer un élan vital, c'est, je crois, ce que les textes bibliques parviennent à effectuer. Cette force d'adhésion qui fait dire oui aux personnages de la Bible est quelque chose qui arrive à se communiquer. Et ce n'est pas la magie des textes bibliques, c'est l'art des auteurs bibliques. Marthe est clairement dans cette attitude de l'exécution. Elle exprime quelque chose à travers ce qu'elle fait. Elle s'active, elle sert avec une forme d'inquiétude que Jésus repère. C'est dire le sérieux avec lequel elle s'acquitte de sa tâche. Elle fait ça consciencieusement. Et ce que l'on peut repérer, c'est que derrière son service, derrière sa diaconie, pour reprendre le terme grec, s'ouvre un univers très instructif pour comprendre de quelle manière notre vie n'est pas simplement un agir, une action, mais une œuvre. Le service, ici, renvoie à la fois à la confection du repas et à la mise en scène de ce repas. L'homme ne se contente pas de cueillir ou de manger le résultat de la chasse. Il prépare un repas, il cuisine. Une fois que le repas est prêt, il ne se contente pas de plonger la tête dans le plat de nourriture. Il dresse une table, il mange avec des ustensiles. L'univers du repas est extrêmement significatif, parce qu'il révèle que l'homme vit en s'arrachant à la nature pour entrer dans le domaine de la culture. L'homme ne se contente pas de reproduire la nature. Il instaure une manière de vivre. Il instaure des règles, des usages, par lesquels il montre clairement qu'il ne se laisse pas seulement guider par ses instincts, par les désirs de sa propre nature, comme le disait l'apôtre Paul aux Galates, mais qu'il pense ce qu'il fait. Schleiermacher indique que l'homme ne se contente pas d'imiter la nature, mais qu'il intervient dans la nature, qu'il change le cours de la nature, qu'il lui donne de nouvelles règles pour l'orienter vers un idéal, pour arracher la nature à une sorte de chaos indéterminé. Et c'est là encore tout le sens de Genèse 1. Il y a une sorte de tohu-bohu, et des paroles donnent sens à ce tohu-bohu. Et du coup, ce tohu-bohu devient vivable. Et ce n'est pas une sorte de soupe, ce n'est plus une soupe primordiale. C'est le lieu où il est possible de vivre, où il est possible de créer, où il est possible d'aimer, de ressentir, de produire, de reproduire, de transmettre et de susciter. La nourriture est un exemple tout à fait intéressant pour dire cet homme qui sort de la nature pour entrer dans la culture. Il ne se contente pas de reproduire la nature, il instaure des règles qui lui permettent de se hisser au-dessus de la nature. Prenons l'exemple de la musique. Est-ce que vous pensez vraiment que cet orgue se trouve comme cela à l'état brut, dans un coin reculé de la forêt amazonienne? Les instruments ont été pensés et créés par la main de l'homme. Et du coup, ils nous permettent d'obtenir des sons qui ne sont pas tout à fait ceux de la nature. Sur le plan architectural, cet édifice ne se retrouve pas non plus à l'état naturel, ici ou là. C'est un édifice qui a été pensé et qui permet certaines choses que d'autres abris dans la nature ne permettent pas forcément. À chaque fois que nous croisons un commandement divin dans le texte biblique, nous nous rendons compte, si nous allons au-delà de la lettre du texte, que c'est une manière de nous donner une impulsion qui va nous orienter vers un autre comportement que celui auquel nous nous serions laissés aller spontanément si nous n'étions guidés que par notre instinct naturel, notre instinct de survie égoïste même peut-être. Le principe de la loi, en tout cas dans les textes bibliques, c'est d'injecter de la culture, de la civilisation, pourrait-on dire, dans notre nature animale, pour que s'épanouisse autre chose que ce que la nature est capable de faire émerger. S'arracher à la nature, c'est renoncer à une part de nous-mêmes, bien sûr, car nous sommes d'abord un produit de la nature. Mais s'arracher à la nature pour entrer dans la culture, c'est peut-être perdre quelque chose de notre nature, mais pour acquérir ce supplément d'être que seule la culture peut nous offrir. C'est ce que dit Jean-Jacques Rousseau dans son contrat social. Renoncer à un bien qui est le mien et obtenir infiniment plus finalement que ce que je crois perdre. En renonçant à mon désir de vengeance, ce que la loi m'invite à faire, eh bien je peux peut-être gagner un frère. En renonçant à manger le steak directement sur la cuisse du bœuf, j'y gagne non seulement en hygiène, mais aussi en saveur. Et qui sait, il se pourrait même que nous ayons la chance de goûter plus que du bœuf. Un théologien juif nous dirait que les règles alimentaires permettent de sanctifier le monde profane. Ne pas se contenter de reproduire, ne pas se contenter de copier, eh bien, c'est nécessaire pour exprimer cette excitation originelle qui est étrangère à la nature. Elle n'est transmissible, cette excitation originelle, qu'à la condition que nous injections quelque chose de non naturel dans notre vie, quelque chose de culturel, quelque chose de construit par ce que nous sommes ensemble. C'est la raison pour laquelle les grands peintres ne cherchent pas à reproduire à l'identique les couleurs qu'ils ont sous les yeux, ni même les formes d'ailleurs. C'est peut-être la raison pour laquelle le portrait de Kate Middleton, l'épouse du prince William, n'est pas nécessairement une œuvre d'art. Mais ça, c'est un jugement très personnel. Ne pas se soumettre à la nature, ne pas considérer la nature comme ce qui donne le « là » de notre existence. Comme le dit Laurent Gagnebin, là où la théologie catholique affirme que la nature parle à l'impératif, le protestantisme considère que la nature parle à l'indicatif. En accomplissant son service, Marthe est sur la voie d'une expression proche de l'œuvre d'art. Dans la mesure où elle injecte dans la fonction « nourrir » un ensemble de gestes et d'intentions qui orientent cette fonction vers une autre fonction qui fait de l'homme un homme, la commensalité. Il ne s'agit pas simplement de remplir l'estomac, il s'agit aussi de profiter de ce moment pour établir des relations avec un autre, par exemple. Il ne s'agit pas simplement de se nourrir, mais aussi de prendre soin de son humanité en intégrant, par exemple, les notions de plaisir et de cordialité. Marthe est ici diakonos, diacre. Elle n'est pas doulos, serviteur. Car le serviteur accomplit mécaniquement sa tâche. Le serviteur, lui, injecte son intelligence, injecte du génie, fait en sorte d'ériger son action à la hauteur d'une œuvre d'art. C'est comme les musiciens, s'ils sont de grands virtuoses, en transcrivant mécaniquement la partition, ils ne sont pas plus qu'une machine. C'est en injectant une part d'eux-mêmes, une part de leur vécu, une part de leur émotion, qu'ils peuvent ériger une mélodie à la hauteur d'une vraie œuvre d'art. Nous l'avons entendu, Marthe est sur le point de produire une œuvre d'art. Mais ce qui lui manque, c'est justement ce que Marie est en train d'apprendre, cette étincelle. Marthe, déjà, a injecté de l'humanité dans son action, mais elle n'a pas encore cette petite étincelle qui va embellir son œuvre. Alors, je vous propose de voir dans cet épisode biblique une Marie en pleine phase d'excitation, une Marthe en pleine phase d'expression, deux moments de la création artistique repérés par Schleiermacher. Il en repère un troisième. Le troisième temps de la création, après l'excitation et l'expression, c'est la relation. Le problème de Marthe, c'est qu'elle ne voit pas que Marie est en train d'évoluer, en train d'acquérir ce qui va lui être nécessaire pour son existence plus tard. Marthe ne voit pas que Marie a besoin de ce moment qu'elle est en train de vivre pour hisser sa propre histoire à la hauteur d'une œuvre d'art. Marthe et Marie sont dans le même espace-temps, mais elles ne sont pas dans le même moment, elles ne sont pas dans le même kairos. Jésus, lui, embrasse la scène d'un même regard. On pourrait dire qu'il a un regard synoptique. Et il va constater ce décalage qu'il y a entre l'une et l'autre. Et il va simplement aider Marthe à comprendre ce qui se vit, ce qui se passe, non seulement pour pouvoir l'accepter, pour éviter qu'elle soit dans une attitude de jalousie à l'endroit de sa sœur, mais aussi pour lui faire découvrir que cette part que Marie est en train de prendre, c'est peut-être une part qui lui fait défaut, et qu'elle serait bien inspirée, elle aussi, de se saisir de ce moment. Marie a pris la bonne part, pour le moment. Jésus ne dit pas que c'est Marie qui a raison contre Marthe. Il dit juste que ces deux femmes sont en train de vivre deux temps différents qui leur permettront d'ériger leur vie en œuvre d'art. Marie pourra ensuite trouver sa propre voie pour exprimer cette étincelle de vie qui est en train de jaillir en elle et qui va illuminer son existence. Et plus tard, Marie sera capable de transmettre cette étincelle de vie, car Marie sera le premier des apôtres. C'est elle qui parlera de Pâques. C'est elle qui sera capable de ressusciter le désir de vivre chez les disciples qui étaient abattus, accablés par le deuil de leur maître. Jésus fait ici donc un acte de révélation en reliant différents éléments, différents moments. Et ce troisième temps de la relation, c'est celui qui nous fait dire qu'il faut qu'il y ait du désir dans l'expression, pour éviter que nous soyons atteints de cette virtuosité mécanique dont je parlais. Une technique sans âme, en quelque sorte. Mais il faut aussi qu'il y ait une expression au désir. On ne peut pas se contenter de ces emportements, de ces élans du cœur, sans quoi le soufflet retombe, sans quoi l'étincelle se consume d'elle-même et disparaît, n'est plus et n'a servi à rien, en quelque sorte. Schleiermacher va plus loin dans la nécessité de mettre les choses en relation. Il dit que le tout doit être en relation avec les parties. Prenons le cas d'un tableau. Si l'effort du peintre porte sur les seuls détails, alors nous aurons une succession de petits bijoux. Mais l'ensemble du tableau n'exprimera peut-être rien du tout. À la manière d'un collier fait d'éléments élégants, mais qui, mis ensemble, sont tout à fait affreux. On peut aussi avoir des éléments vestimentaires qui, pris chacun pour eux-mêmes, sont de très belles qualités, de très belles factures, très élégants, mais mis ensemble font de nous quelqu'un qui fait de la peine, plutôt que de susciter le désir. A contrario, tout miser sur l'ensemble, faire fi des détails, c'est courir le risque de produire une abstraction radicale qui ne communique pas grand-chose. Et c'est peut-être ce que l'on peut reprocher à certaines productions contemporaines, qui relèvent plus de la performance que de l'œuvre d'art. Il y a un message à faire passer, il y a un concept. Mais au fond, il n'y a pas de soin dans le détail. Il en va de même pour notre vie, qui, à l'image d'un culte, par exemple, peut ne pas être seulement une succession de petits moments mis les uns à côté des autres, sans rapport entre eux, sans quoi notre vie devient fragmentaire, éclatée. Notre vie peut ne pas être non plus seulement une sorte de message, un message global qui ne serait pas incarné, qui ne serait pas vécu localement, vécu dans le détail, pas à pas. En s'intéressant à l'esthétique, Schleiermacher cherchait à distinguer l'art à bon marché de l'art qui coûte, en quelque sorte, distinguer la pacotille des joyaux. De la même manière qu'il aura cherché à distinguer la religiosité de la religion authentique. Et ce faisant, c'est une quête de Schleiermacher pour nous aider à repérer ce qui permet de distinguer l'humanoïde de l'humain véritable. Distinguer celui qui a une activité physique, biologique, de celui qui a une vie intérieure qui lui permet aussi de se hisser au niveau de ce qu'on appelle l'humanité. Et c'est dans la veine de Jésus que Schleiermacher accomplit cela. Un travail de révélation qui nous aide à découvrir ce que signifie être humain. Nous sommes au bénéfice d'un acte créateur qui est un oui à la vie. C'est le premier moment. Cette stimulation de départ, c'est en quelque sorte ce que dit le baptême. Oui, il y a quelque chose à vivre. Et puis nous recevons les moyens d'exprimer ce qui se construit en nous. C'est le sens de la catéchèse, c'est le sens de la théologie. Trouver les mots pour le dire, pour le communiquer. Être capable de transmettre ce que le divin construit en nous. Être capable d'en faire une éthique. Être capable de transcrire cela en action, en comportement, en décision, en orientation. La vie spirituelle nous permet de relier tout ce qui fait notre vie pour en faire une œuvre cohérente, une œuvre qui fait envie, une œuvre qui donne à penser, une œuvre qui peut à son tour devenir stimulante. Et finalement, Schleiermacher dit que nous sommes à la fois une œuvre d'art. Et c'est ce que confirme Jésus. En s'adressant ainsi à chaque personne qu'il rencontre, il considère que chacun est d'une dignité inestimable, une œuvre d'art. Mais ce n'est pas simplement un objet, c'est aussi le sujet. Un sujet qui va à son tour nous permettre de devenir œuvre d'art. Une œuvre qui va pouvoir susciter quelque chose chez celui qui l'observe, chez celui qui se tient face à lui. Être capable, à notre tour, d'exciter l'autre, à notre tour, capable de l'envoyer dans la vie, à notre tour, capable de faire resplendir ses journées, à notre tour, capable de faire retentir ce « oui », ce « logos ». Être capable, à notre tour, de porter cette lumière qui fera resplendir ses journées comme jamais jusque-là. Porter la vie de l'autre à son incandescence. Et comme le disait Jim Morrison, découvrir que nous sommes capables de mettre le feu à la nuit. Amen.